Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, je vous retrouve pour Terre solidaire. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un projet du CCFD, mais de la question du climat. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est important pour les pays du Nord et pour les pays du Sud. Il y a actuellement des déracinés climatiques. Et au moment où j'enregistre cette émission, va arriver devant le Parlement la loi qui concerne les migrants qui demandent l'asile politique. C'est quelquefois réel, mais quelquefois cela masque l'asile économique. Ils sont dans des situations tellement difficiles dans leur pays que même si nos propres pays sont, disons-nous, en crise, eh bien la vie est quand même beaucoup plus favorable que dans leur propre pays. Et de plus en plus, il faudra jouer cette relation entre pays du Nord, pays du Sud, pays de l'Est, puisque nous n'avons qu'une seule terre. Je rejoins aussi, pour enraciner mon propos, le texte du pape François. Il y a des êtres fragiles et sans défense, je le cite, c'est au numéro 215. Des êtres fragiles et sans défense, qui très souvent restent à la merci des intérêts économiques, ou sont utilisés sans discernement. En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas les simples bénéficiaires, mais les gardiens des autres créatures. Dieu nous a unis étroitement au monde qui nous entoure, l'ensemble de la création. Bien, de ce point de vue-là, les enjeux liés au changement climatique sont importants et interrogent les relations Nord-Sud. Alors, dans mon propos, trois points. La situation inégale entre les pays qui exigent une action concertée. Le deuxième point, c'est de voir comment il faut relier le climat, l'énergie et le social. Ça nous interroge tous. Si on pollue et si aujourd'hui Madame Hidalgo interdit ou voudrait interdire les feux dans les cheminées à Paris, que doit-on dire lorsque dans les pays d'Afrique, il n'y a que du bois de feu pour faire cuire la soupe ? Encore bien heureux s'il y a de la soupe à cuire. Et puis enfin, l'urgence de ces défis, puisque dans les années 90, on évoquait 2 degrés d'augmentation de la température si on prenait les mesures pour limiter les gaz à effet de serre. Maintenant, c'est une stabilisation à 3 ou à 4 degrés qui sera impossible. Donc il faudrait peut-être prendre en compte, puisque cette terre, elle nous est donnée, mais elle nous est donnée aussi pour nos descendants, et peut-être, comme moi, avez-vous des enfants et des petits-enfants, et vous vous dites, que faire pour que la terre soit vivable ? Alors, la situation est inégale. D'une part, certains ont contribué au changement climatique plus que les autres. Alors c'est vrai que dans les négociations internationales, on peut se placer en disant « mais cette pollution, c'est vous qui l'avez faite. Eh bien, laissez-nous atteindre votre développement et après on parlera de la pollution. » Moyennant quoi, nous risquons d'avoir de graves problèmes. Donc, l'action isolée d'un pays ou d'un groupe de pays aujourd'hui n'a guère de poids et il faut agir collectivement. Les changements climatiques ne peuvent être traités que dans un contexte de justice. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que lorsque l'on est à Paris ou lorsque l'on est en Chine ou à Ségou, eh bien déjà, les changements climatiques sont vécus sur le terrain. Lorsqu'il y a ces sécheresses infinies qui obligent les gens à quitter les espaces qu'ils occupaient avec leurs troupeaux pour aller se réfugier plus au sud, lorsqu'il s'agit du Sahara par exemple. Donc, c'est bien une injustice dont certains pays en développement, notamment en Afrique, font les frais de ces changements climatiques. Le niveau des mers, on en parle. Et là aussi, tous les pays ne sont pas atteints de la même façon. Et on sait bien que déjà, dans les pays qui sont proches des niveaux de la mer, où des îles sont à 1 ou 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette augmentation due au changement climatique intervient dans les inondations et oblige déjà des populations à fuir. Et puis on a besoin d'énergie pour se développer. On a besoin d'énergie pour avoir un développement socio-économique stable. Pas d'école, pas de service de santé qui peut fonctionner correctement. Donc, rappelons-nous, la consommation énergétique des 20 millions d'habitants de l'État de New York, écoutez bien, l'État de New York, 20 millions d'habitants de l'État de New York consomment autant que l'Afrique entière, près d'1 milliard de personnes. Bon, on pourrait les multiplier, ce qui veut dire que les pays développés doivent baisser leur consommation d'énergie afin de permettre aux pays qui doivent se développer d'améliorer leurs conditions de survie, soyons généreux, d'existence. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la nécessité de relier le climat, l'énergie et le social. Parce que à déconnecter les objectifs de décarbonation, eh bien, cela nous amène à transformer nos politiques en « je te donne un chèque et je continue de polluer ». Alors que, en faisant ainsi, l'amélioration du climat ne se fait pas. Et il faut plutôt mobiliser ses moyens financiers, non pas acheter des droits à polluer, mais peut-être réorienter les investissements, les moyens financiers vers ces systèmes énergétiques plus sobres, nuls en carbone, plus efficaces. Cela relève d'une question de justice sociale. Tout le monde s'accorde sur le fait que la question d'énergie et la question du climat sont liées. Mais on en parle dans des enceintes différentes. Et peut-être que l'énergie durable pour tous ne doit pas être simplement renvoyée à la dimension climatique autour de l'environnement, limitée aux efforts à entreprendre pour diminuer les gaz à effet de serre. Ou bien d'un budget limité d'émissions à partager. Je peux continuer à émettre des gaz et puis je continue à polluer parce qu'en contrepartie, j'ai envoyé un chèque. Donc, comment être crédible pour les pays du Nord, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour les pays développés, si on ne fait pas une offre crédible pour accélérer la transition énergétique? Eh bien, après la pause musicale, je vais reprendre cette question qui est importante pour les pays du Sud et pour le développement de nous tous ensemble. Nous sommes toujours dans l'émission Terre solidaire et j'évoque cette solidarité autour des questions de l'énergie et du climat. Souvent, dans les conférences antérieures, il y a eu des propos des scientifiques de très grande qualité, des propos aussi de très grande qualité des uns et des autres. Mais la difficulté, c'était de passer des idées à l'application, passer des idées aux réalités. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de créer un fonds international sur la base de quelques taxes sur les permis d'échange de carbone, on en a accepté le principe. Mais très vite, par exemple, l'Europe s'en est exonérée en réservant les affaires au seul mécanisme de développement propre, ce qui veut dire qu'on renvoyait aux pays du Sud cette responsabilité du développement propre. Mais l'Europe n'a jamais appuyé des propositions comme celle faite par le Brésil qui proposait d'observer sur la base de pénalités pour les pays ne respectant pas leurs engagements quantitatifs de baisse d'émissions. Le Fonds vert pour le climat, dont le principe a été élaboré à Copenhague, a été adopté. Mais budgétairement, les engagements ne sont pas tenus. Et dans une période de crise où les États sont budgétairement contraints, ils seront sûrement incapables d'alimenter le mécanisme de ce Fonds vert à hauteur suffisante. Donc, il y a là une question de crédibilité, et pourtant c'est bien ensemble qu'il faut sauver le climat, pour sauver la planète et pour permettre aux hommes de mieux vivre. Parce que l'accès équitable au développement durable fait qu'on ne peut pas simplement se contenter de voir dans les pays du Sud les mendiants. Ils ont le soleil, certes, mais pour développer le solaire, ils ont besoin d'argent. Donc, indispensable de relier climat, énergie et social. Le social étant ceux des pauvres. La transition énergétique, c'est un processus lent. Or, nos hommes politiques, par définition, dans nos démocraties, se renouvellent. Ils se font réélire, donc sont des processus rapides. Donc là aussi, il y a des défis à relever. Et quels sont ces défis ? D'abord, une volonté politique qui se fonde sur une vision claire, partagée par tous les pays. La justice se joue aussi sur le terrain de la rigueur intellectuelle et scientifique. Et on ne peut pas ignorer, par exemple, que le bois de feu reste largement utilisé pour cuire les aliments. Cela soulève des problèmes, les problèmes de pauvreté énergétique, mais aussi de déforestation, de dégradation des terres. Puisque là où il n'y a plus de forêt et d'arbres pour tenir les terres, elles s'en vont avec les pluies. Et puis aussi de maladies bronchopulmonaires à cause de la fumée. Donc il ne s'agit pas simplement de faire un chèque aux pauvres, mais d'élaborer une coopération, y compris au niveau de ce travail intellectuel. Une coopération universitaire dans ces domaines pour acquérir une vision commune. Et les appareils de recherche et de coopération scientifique comme le GIEC sont déterminants, mais aussi il faut qu'ils soient guidés par les problématiques qui émergent du terrain, de notre terre, de celle des pays du Nord, celle des pays aussi du Sud, celle des pays qui sont inondés parce que le niveau de la mer monte. Donc il faut avoir le courage de repenser la coopération et mobiliser les ressources humaines nécessaires et faire en sorte que la justice ne relève pas de l'aumône. Les structures de financement, là aussi, sont à aborder ensemble. Et comment éviter la méfiance des pays du Sud ou des pays tiers si les promesses faites à Copenhague ne sont pas tenues ? Il s'agit aussi de réorienter les investissements, puisque les différents climatiques, cette sécheresse, oblige à revoir l'agriculture, le développement rural. Et puis des investissements, ils ont le soleil, mais il faut investir pour les panneaux solaires et chacun voit le prix des panneaux solaires. Donc réinvestir pour l'énergie, les transports, l'habitat. Donc peut-être aussi revoir les institutions qui réglementent les secteurs de l'agriculture, réorienter les flux financiers et donc peut-être donner une part plus grande aux pauvres dans le Fonds monétaire international. Ces questions, ces défis qui montrent qu'il faut une vision commune, indispensable, avec l'émergence d'une intelligence commune aussi, c'est urgent pour tous. Et l'échéance de Paris 2015 ne doit pas être une conférence de plus, mais elle doit être une chance pour éviter d'être contraint de s'adapter à des transformations inéluctables en catastrophe. Donc, cela commande non pas de faire pour les pays du Sud, ce que le CCFD ne fait plus déjà depuis un moment, n'a jamais fait même, ni même de faire avec, ce qui parfois se fait dans les projets de partenariat, mais maintenant il s'agit de coopérer et de faire ensemble. Ensemble, pays du Nord et pays du Sud, pour sauver la planète. Allez, bonne semaine à tous.